Voilà, ben écoutez, je dirais que c'est probablement le dimanche entre Noël et Nouvel An, un des dimanches, disons, de défi. Quoi prêcher ce jour-là? Pas toujours évident. Alors, j'étais tenté, j'ai même préparé cette semaine, je suis retourné dans ma préparation pour continuer notre série dans 2 Timothée. Ça aurait été très bien parce que nous venons de le voir, la parole de Dieu est inspirée, donc ça aurait été bien. Mais mon cœur n'y était pas, je voulais attendre la nouvelle année pour continuer la série, et donc je me suis dit non, il faudrait faire quelque chose d'un peu particulier ce matin. Alors, j'ai un petit peu révisé ce que nous venons de faire, puisque la saison de Noël se termine quelque part. Et pour notre fête de Noël, si vous étiez ici, vous vous rappelez que là, j'ai abordé le sujet, si Dieu devenait un homme, à quoi ressemblerait-il? C'était la question qu'on avait posée. Et la réponse, après avoir fait le message, était, je dirais, simple, claire. Ben, la réponse, si Dieu devenait un homme, à quoi ressemblerait-il? Ben, il ressemblerait à Jésus-Christ. Ça, c'était la réponse. D'accord? Ensuite, dimanche dernier, on a continué sur ce thème et on a regardé ces quelques versets dans Colossiens 1 et un message que j'ai intitulé L'identité de Jésus-Christ. On s'était posé la question, mais est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Comme nous l'avons vu pendant la fête de Noël. Et nous avons conclu dimanche dernier, oui. Oui, Jésus-Christ est vraiment Dieu incarné. Dieu est devenu un homme en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'ai envie de continuer le thème, d'accord? Je continue le thème. Et j'aimerais poser une autre question et essayer de la répondre. Ok, d'accord, mais pourquoi Jésus-Christ est-il venu sur Terre? Pourquoi Dieu s'est fait homme. Et j'aimerais aller un petit peu plus loin et poser la question, et en quoi cela devrait nous affecter, nous, personnellement, aujourd'hui? Quelle implication cela doit-il avoir dans nos vies? Alors, je vais vous donner le titre de mon message et vous allez comprendre probablement la réponse, d'accord? Voici le titre de mon message. La moisson abondante. La moisson abondante. Et on lira le texte dans quelques instants. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les églises noires gospel américaines. Mon épouse et moi, l'année passée, on a célébré nos 25 ans de mariage. On était à New York et j'ai toujours rêvé d'aller à l'église de Brooklyn Tabernacle. Et là, c'est une église de 5 000 personnes avec une chorale. Ils doivent être, je ne sais pas, 200 ou 300. Du gospel. Mais c'est incroyable. C'est super. Moi, j'aime beaucoup le gospel. Alors, il y a beaucoup de types d'églises aux États-Unis et beaucoup d'églises type, je dirais, donc noires. Et ils ont souvent dans ces églises des idées très originelles pour faire passer le message. On raconte qu'un prédicateur particulier un jour voulait faire passer un message. Et donc, il a annoncé un jour qu'il y aurait, à telle et telle date, un service funèbre dans la salle. Et il a dit que ce service funèbre serait pour quelqu'un que tout le monde connaissait très bien. Mais il n'a pas dit le nom de la personne. Alors c'est vrai que c'est un petit peu inhabituel. Vous allez avoir un service funèbre pour enterrer quelqu'un, mais personne ne sait de qui. Alors le jour J, tout le monde était là, rempli de curieux. Il y avait un chœur qui a chanté un hymne funèbre, et puis le prédicateur a pris la parole. Et son message avait de quoi surprendre. Loin de célébrer le défunt, donc la personne décédée, et tous ses mérites, ce qu'on fait habituellement dans les enterrements, il a commencé à décrire l'homme de cette manière. Il n'a pas obéi au commandement de Dieu. Et que cet homme était tombé sous le jugement de Dieu. Et maintenant, il était face à Dieu, son juge. Et ensuite, il a terminé son message en décrivant les personnes qui ont rejeté Christ, son salut, et qui ont méprisé la grâce de Dieu à leur égard. Alors, je ne sais pas si vous aviez été dans l'auditoire, comment vous auriez réagi? Plutôt surprenant. Alors, bien sûr, au fur et à mesure qu'avançait ce service, tout le monde se posait la question, mais y a qui dans ce cercueil? Parce que le cercueil était là. Il y avait le cercueil là. Et tout le monde se disait, mais de qui parle-t-il? C'est quand même incroyable. Alors, à la fin de son message, il a demandé que le couvercle du cercueil soit enlevé. Alors, imaginez. Alors, tout le monde voulait voir qui était dans le cercueil. Donc, il a enlevé le couvercle. Il a demandé à l'église de se mettre en ligne et qu'ils allaient pouvoir, un à un, passer devant le cercueil et voir qui était dedans. Donc, une longue file se dressa devant le cercueil. Et alors, les derniers en ligne regardaient, chacun qui passait, regardait dans le cercueil, et soudainement se levait avec un visage totalement crispé par rapport à ce qu'ils avaient vu dans le cercueil. Et personne ne disait rien. Qu'est-ce qu'ils avaient vu dans ce cercueil? Eh bien, le pasteur avait mis au fond du cercueil un miroir. Et chacun qui regardait dans ce cercueil se voyait lui-même. Il voyait sa propre image. Et donc le mort qu'avait décrit le prédicateur, c'était tout simplement toi et moi. Car la Bible nous dit que nous sommes morts à notre péché. Nous sommes nés, nous sommes rebellés contre Dieu, nous sommes morts et la seule manière de retrouver vie, c'est en Jésus-Christ, qui lui nous ressuscite. Il nous pardonne notre péché, il nous ressuscite. En fait, c'est intéressant. Si je devais résumer pourquoi Christ est venu en un verset, je pourrais aller à Jean 3,16, mais je ne vais pas y aller aujourd'hui. Ça, c'est classique. Peut-être c'est celui-ci. Luc 19,10 dit ceci, « Car le Fils de l'homme est venu... » Ah ! Maintenant, il va nous dire pourquoi il est venu. Il est venu, voici pourquoi, chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus-Christ est venu sur terre, Dieu est devenu un homme, on l'a vu la semaine dernière. Pourquoi ? Pour toi et pour moi. Il est venu, comme nous le dit Luc 19,10, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Éphésiens 2,1 nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Voici l'état de l'homme. » Ecclésiastes 7,20, il n'y a aucun sur terre qui n'a jamais péché qui fait le bien. Ça n'existe pas. Nous sommes tous contaminés par le péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous celui qui est dans le cercueil. Physiquement, bien sûr, nous allons mourir, mais spirituellement, nous serons séparés pour l'éternité de Dieu si nous mourrons dans notre péché. Christ est venu nous chercher et nous sauver. Il prend sur lui notre peine, notre péché, et il nous offre sa justice en échange. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, continue Éphésiens 2, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Christ est venu. Voilà pourquoi Christ est venu. Ok, ça je pense qu'on le sait, c'est rien de nouveau. Peut-être l'illustration un petit peu nouvelle, mais ce sont les choses que nous savons. Ok, alors quelle est l'implication de cela pour nous en tant que chrétiens? Et surtout, je dirais, en vue de l'année prochaine. Quelque part, j'aimerais nous lancer un défi. J'aimerais vraiment nous lancer un défi aujourd'hui. Allez avec moi à Matthieu chapitre 9, ça va être notre texte. Ça, c'était l'introduction, d'accord ? Matthieu chapitre 9. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, le monde est perdu. Comment veut-il le faire ? Comment veut-il atteindre le monde entier avec cette bonne nouvelle ? Regardez, c'est absolument merveilleux. Que trois versets ce matin, d'accord ? Matthieu 9, à partir du verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Maintenant, vous comprenez le titre, « La moisson abondante ». La moisson abondante. Nous allons voir quelle est notre responsabilité en tant qu'individu, en tant que ceux qui connaissons Christ déjà, nous qui avons été ressuscités avec Christ par la foi, bien sûr, par sa grâce, nous qui avons été pardonnés par son sang qui a coulé pour nous, quelle est notre responsabilité aujourd'hui ? Eh bien, je crois que ces trois versets nous donnent quatre responsabilités que nous avons en tant que chrétiens. Alors, il n'y a même pas de PowerPoint parce que c'est tellement facile à se rappeler de ces quatre points, d'accord ? Quelles sont nos quatre responsabilités ? Premièrement, nous devons avoir les yeux ouverts. Les yeux ouverts. Le verset 36 parle de Jésus, bien sûr. Il est dit ceci, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. » Parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Il faut avoir les yeux ouverts. Il faut regarder autour de nous. Il faut pénétrer le monde de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, bien sûr, je me suis posé cette question. Voyons la foule. Alors, pour pouvoir voir la foule, il faut être où ? Dans la foule. Ou à côté de la foule. Proche de la foule. Je me suis posé la question, est-ce que Jésus était sur une montagne avec une paire de jumelles en train de regarder de loin ? Ah, il y a une foule là-bas. Non, je pense pas. Était-il devant une télévision en train de regarder la foule ? Non, je ne pense pas. Lisait-il simplement le journal hebdomadaire, au quotidien, pour voir la foule ? Non, je ne pense pas. Non, il était avec la foule. Regardez verset 35, juste avant. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. C'est intéressant que chaque fois que nous voyons Jésus, il est toujours en train de voyager, il est parmi les gens qu'il veut atteindre. C'est normal, il est venu pour cela. Donc il est avec ceux qu'il veut atteindre. Il fait l'effort d'aller là où sont les gens. Alors bien sûr, il a très vite, parce qu'il faisait des miracles, c'était bien sûr Dieu incarné, beaucoup de gens sont venus vers lui, mais lui, il allait vers eux. Il était, j'ai envie de le dire ainsi, il était intentionnel vis-à-vis des non-chrétiens. C'était décisif, c'était une décision qu'il avait prise d'aller vers eux. Il est venu pour cela. Et c'est intéressant, si vous regardez par exemple les chapitres 8 et 9 de Matthieu, on voit dans le chapitre 8, 1, regardez ce qu'il fait. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Donc il était déjà avec des foules qui le suivaient, mais il était donc avec eux. Verset 2, « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui, et il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre. » Donc là, il est avec un lépreux, il a une discussion avec lui, il va le guérir. Au verset 5, « Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda. » Ben, centenier l'aborde parce que lui, il est là, il est dans la ville, il rentre là où ils sont et le centenier vient vers lui. Au verset 14, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant de la fièvre. Donc là, il rentre dans une maison, celle de Pierre, il y a sa belle-mère qui est malade, il est avec elle. Au verset 16, le soir, on amena auprès de lui plusieurs démoniaques. Et il chassa les esprits par sa parole. Donc là, il est maintenant entouré de démoniaques, il est là où ils sont. Au verset 19, il est avec des scribes. Un scribe l'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Encore des démoniaques au verset 28, chapitre 9, verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Pourquoi? Verset 1, Jésus étant monté dans sa barque, dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Donc il est de retour à Capernaüm, et là, on lui amène un paralytique. Parce qu'il est là, il est avec eux. Chapitre 9, verset 9, il est avec Matthieu. J'aime beaucoup le verset 9 et le verset 10. Comme Jésus était à la table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui, avec ses disciples. C'est intéressant. Il invite Matthieu invite Jésus chez lui. Jésus, il y va. Donc, il est chez quelqu'un et il amène ses amis pour rencontrer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est chez lui. Il est intentionnel. Verset 18, un chef juif de la synagogue. Chapitre 9, verset 10, des gens de mauvaise vie. Chapitre 9, verset 20, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Verset 27, deux aveugles. Verset 32, un démoniaque muet. Bref, il est là où sont les gens. Et les gens sont avec lui. Au verset 35, nous avons vu tout à l'heure, il est dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume. Pourquoi? Mais parce que Jésus, Luc 19, 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si on veut sauver, voir les gens qui sont perdus être sauvés, il faut aller là où ils sont. C'est ça la leçon. Je me rappelle, il y a de nombreuses années, quand je faisais mes études de théologie aux États-Unis, j'étais en Californie, et on avait un appartement, il y avait d'autres appartements autour de nous, et j'étais très occupé. Je faisais mes études théologiques. Et après peut-être un an, je ne sais pas, nos voisins, qu'on voyait mais vraiment, alors occasionnellement, juste pour dire bonjour et à peine, m'ont arrêté, ils m'ont dit « John, est-ce que tu penses que tu es mieux que nous ?» Je dis « Quoi ?» Ouais, est-ce que tu penses que tu es mieux que nous? Je dis, mais je comprends pas la question. Elle a dit, t'es tellement occupé avec tes études théologiques, t'as pas le temps pour nous. Ça m'a scotché, quoi. C'était incroyable. Moi, je me rappelle comme si c'était hier. C'était comme si on m'avait planté un couteau dans le ventre. Je fais des études pour annoncer l'évangile au monde perdu autour de moi. J'avais même pas le temps pour aller les voir. Et c'était mes voisins. Je me suis dit, bon, il faut que je révise un petit peu. Alors, c'est très bien les études théologiques. Je suis très pour. Mais il y a un monde qui périt autour de nous. Comment est-ce qu'on trouve cet équilibre? Alors, moi, je vous pose la question, hein, parce que moi, je suis dans le même bateau, on est tous pareils. Est-ce que vous connaissez déjà vos voisins? Peut-être que ce serait une occasion de les inviter une fois. Prendre un café, ou vous les invitez pour un repas, ou je sais pas. C'est dur, des fois. On a un petit peu peur. C'est menaçant. Mais on a les paroles de la vie. Moi, un voisin est venu chez nous. Et c'est intéressant, on a commencé à discuter. Et lorsqu'il était là, je devais avoir une discussion Skype. Je pense que tout le monde connaissait ce que Skype, c'est une méthode de parler vidéo avec quelqu'un. Il y a une église aux États-Unis qui voulait m'interviewer. Donc, il voulait parler avec moi. Donc, il y avait toute l'église là-bas. C'était un matin et c'était le soir. Et cette personne, ce voisin était là chez nous. Et je lui ai expliqué que j'avais une conférence vidéo avec une église aux États-Unis. Et il a dit, écoute, j'ai envie de voir ça. Est-ce que je peux descendre voir? Je dis, C'est une interview avec une église aux États-Unis. On va parler de choses spirituelles. Et mon voisin voulait voir ça. Je me suis dit, je réponds comment? J'ai dit, ouais, viens. Alors il dit, ah, super, parce qu'il n'avait jamais vu Skype marcher, tout ça. Alors on est descendu, il s'est mis à côté de moi. Et là, tout d'un coup, paf, voilà, il y a l'église devant moi aux États-Unis, puis il commence à me poser des questions. La première question avec mon voisin à côté de moi, il me dit, John, est-ce que tu pourrais nous raconter en quelques minutes ton témoignage, comment tu as rencontré Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur? Je me suis dit dans mon cœur, mais c'est dingue, tu vois? Alors bien sûr, je l'ai pas dit comme ça, hein. Alors j'ai dit oui, bien sûr. Alors sachant maintenant, je parle à cette église et c'était 1000 personnes à me voir et à m'écouter. Genre je raconte mon voyage en Inde, comment j'ai rencontré Christ sur un trottoir à New Delhi quand j'avais 19 ans et tout ça. Et mon voisin, il était là, il écoutait tout. Il écoutait l'évangile. C'était génial. C'était un truc qu'on ne pouvait pas créer, quoi. Et ensuite ils m'ont dit, John, quel est ton objectif à Genève? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Comment est-ce que tu prévois atteindre Genève pour l'évangile? Je me dis, le gars est à côté de moi. D'accord? Je dis, je réponds quoi? Ben, j'ai répondu, ben, écoute, voilà. Par la grâce de Dieu, on a une nouvelle église et on essaie de propager l'évangile, la bonne nouvelle aux personnes à Genève qui ne connaissent pas l'évangile. Puis ensuite, il m'a dit, John, écoute, est-ce qu'on peut prier pour toi maintenant? J'ai dit, ouais, super. Alors j'ai dit à mon voisin, écoute, on va prier maintenant. Il a dit, ouais, d'accord, ok. Alors on a prié, alors moi j'ai fermé mes yeux devant Skype, et puis il priait pour moi, tout, et puis il regardait. Mais je me suis dit, mais c'est une occasion incroyable que j'ai eue là. Et ça, c'est parce que on a décidé de l'inviter chez nous. Alors, j'essaie pas de m'utiliser pour dire qu'on fait tout juste. C'était vraiment une occasion en or que j'ai eue comme ça. Je me suis dit, ben voilà, est-ce qu'on pourrait être un tout petit peu plus intentionnel pour que les gens autour de nous puissent vraiment entendre l'évangile? Mais je suis comme vous, moi, il y a tellement de voisins, je regarde, je dis, mais je les connais même pas, je connais même pas leur nom, j'aurais à peine jamais dit bonjour. Alors, c'est pas une histoire de succès, c'est la pure grâce de Dieu. Mais est-ce qu'on peut être un tout petit peu plus intentionnel et moi le premier? Donc voilà, nous devons en premier avoir les yeux ouverts. Les yeux ouverts. Et mieux connaître ceux autour de nous. Deuxièmement, nous devons avoir le cœur ouvert. Le cœur ouvert. Regardez ce qu'il dit au verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Ah, c'est intéressant, il voit la foule, donc les yeux ouverts, mais lorsqu'il voit cette foule, qu'il est avec cette foule, tout d'un coup, il ressent de la compassion pour cette foule. Il est ému de compassion pour elle. C'est simple, lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous allez assez rapidement ressentir de la compassion pour cette personne, surtout s'il va mal. Alors c'est un mot vraiment intéressant, d'accord? Le mot pour compassion ici, c'est le mot le plus fort dans la langue grecque pour décrire la pitié que quelqu'un peut recevoir, ressentir. Alors, voici le mot grec, d'accord? Écoutez bien. Splagna. Alors sachez que ça ne veut rien dire, d'accord? Mais pourquoi je vous le dis? Parce que le mot splagna décrit les intestins de quelqu'un. Pas mal le mot, non? Splagna, c'est très imagé. Boyau, entraille, c'est le mot qui décrit ce sentiment profond d'une pitié intense qu'on ressent lorsqu'on voit quelqu'un dans la misère et on est déchiré. Il y a quelque chose qui se passe dans nos boyaux, tu vois, et t'as mal au cœur et au ventre et tu dis « waouh, mais quelle détresse ». Il y a ce sentiment d'injustice, de révolte, de colère, de tristesse, de pitié. Et toutes ces choses se mélangent. Et là, les nerfs de l'estomac, splagna. En fait, c'est intéressant. Le mot, littéralement, veut dire arracher la peau de quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un petit bout de peau arraché. C'est quoi le ressentiment ? Aïe, ça fait mal. Je me rappelle quand j'étais gamin, on était ici à Genève, où j'ai grandi. Avec ma mère, je sais pas, j'avais 8 ou 10 ans, je ne me rappelle plus exactement l'âge que j'avais. Et on est arrivé à une intersection à Genève, quoi, 30 secondes après qu'il y ait un accident grave. Et un camion s'est renversé. Et juste quand on est arrivé à cette intersection, je voyais le conducteur du camion sortir de la fenêtre brisée. Bon, je suis pas là pour vous dégoûter ce matin, mais je vous dis, parce que ça, c'est le ressenti. Il avait toute la lèvre inférieure déchirée. Là, j'ai ressenti splagna. C'est ce sentiment recherché ici. Alors, question, quel genre de choses on fait ressortir ce sentiment chez Jésus? Par exemple, dans Matthieu 14:14, il est dit ceci. Les maladies, la souffrance de quelqu'un a fait ressentir. Dans Matthieu 14:14, on lit « Quand il sortit de la barque, il fit une grande foule et il fut ému de compassion, de splagna pour elle. Et il guérit les malades. » Donc il voit la foule, il voit les malades, et il est ému de compassion. Voilà le mot qui ressort ici. Lorsqu'il voit des aveugles, dans Matthieu 20:34, pareil, il est ému de compassion. Lorsqu'il voit les démoniaques dans Marc 9:22, de nouveau, il est ému de compassion. Il y a une autre chose qui l'a ému de cette manière, c'est la mort. C'est la mort. Dans Matthieu 7:13, il y a cette histoire incroyable. Le Seigneur est en train de marcher, il voit un enterrement, une dame qui est en train d'enterrer son fils. Il est justement dans un cercueil, ils sont en train d'aller l'enterrer. Il est dit que le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Il voit cette femme chagrinée par la perte de son fils. Et donc, le texte nous dit qu'il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit. Imaginez. Vous êtes en train d'aller enterrer votre fils et tout d'un coup, « Coup !»« Salut maman, je suis là. » Non mais c'est incroyable. Et quelle scène incroyable. Il est dit que le mort s'assit et se mit à parler. Luc 7. Et Jésus le rendit à sa mère. Ça l'a ému de compassion. Voir le drame humain, la mort de quelqu'un et une maman chagrinée. Dans Matthieu 15:32, Jésus a appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et qu'ils n'ont rien à manger. » Lorsqu'il voyait des gens souffrir, n'ayant pas assez à manger, de nouveau ce même sentiment ému de compassion. Dans Marc 1:41, lorsque Jésus voit un lépreux banni de la société, tout seul, de nouveau, il est ému de compassion. Mais dans notre texte aujourd'hui, la source de ce sentiment est autre encore. La source de cette compassion que ressent Jésus n'est pas physique, mais c'est la confusion religieuse du monde qu'il émue ici. Regardez, verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Et là, lorsqu'il voit les gens dans une confusion religieuse, les gens qui ne comprennent pas pourquoi ils sont là, des gens qui suivent l'erreur et l'hérésie et les faux mouvements et qui vont droit vers la perdition pensant que tout va bien, ça crée en lui le splagna, la compassion. C'est intéressant, le mot languissant ici, c'est l'état d'être plongé, de faiblesse prolongée, de perdre lentement ses forces, c'est un manque d'énergie. Elle était languissante, languissante, fatiguée, t'en as marre. En fait, je me suis trompé tout à l'heure, c'est ici le mot dépouiller, écorcher, arracher la peau. C'est ici le mot. Abattu. accablé. L'idée, c'est le résultat d'une blessure mortelle. C'était quelque part, c'est comme si on voyait un mort vivant. Il est vivant, mais il est mort. Il est complètement à côté de la plaque. Et là, tu regardes, tu dis, mais quelle tristesse! Voilà le sentiment qu'il ressentait vis-à-vis de cela. Vous vous rappelez dans Matthieu 23, verset 1, « Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis sur les chairs de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais agissez pas selon leurs œuvres. » Alors d'un côté, ils disaient ce qui était juste, quelque part, en partie, ils annonçaient la loi, mais ils étaient hypocrites, ils ne l'appliquaient pas eux-mêmes. En fait, ils rajoutaient toutes ces traditions humaines en plus de la loi. Car ils disent et ne font pas. Verset 4. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes et ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Il dit, mais écoutez, attention, ne suivez pas n'importe qui religieusement parce qu'ils vous disent, ils vous disent de faire des choses, ils ajoutent des lois humaines, mais ce n'est pas biblique, pas conforme à la parole de Dieu. Et parce que ça, c'est pesant, la religion, c'est pesante. Non, Jésus est venu apporter la liberté. Il libère l'homme de son péché. Il le pardonne par la grâce. Et il transforme le cœur. Il donne un nouveau cœur. Ce n'est pas de la religion, c'est une relation personnelle avec le Sauveur. Celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et la religion épuise, elle abat. Elle crée que l'homme soit languit. C'est intéressant, juste deux chapitres plus tard, Jésus explique pourquoi il est venu. Regardez, dans Matthieu 11, il y a le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Jésus dit. » Ce n'est pas une religion, c'est à moi une personne, le Sauveur. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. » C'est la condition, mes amis. C'est la condition pour connaître Christ, il faut être fatigué et il faut être chargé. Et je vous donnerai quoi? Du repos. Du repos. Du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ouais, ça, ce que Jésus était, c'était très dur pour lui de voir cela. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Il suivait l'erreur. Il suivait la tradition d'homme, pas la parole de Dieu. Moi, j'avais déjà raconté cette histoire, mais je la raconte encore une fois parce que je trouve qu'elle explique bien ce sentiment qu'on devrait avoir. Parce que pourquoi est-ce qu'on dit tout ça? Nous devrions avoir le cœur ouvert. Lorsque nous sommes avec ces foules, nous sommes avec les gens autour de nous qui vont mal, eh bien, on devrait ressentir de la compassion pour eux. Il y a des années en arrière, Meg et moi, on était à Los Angeles encore, on était arrêtés à un feu et on a vu un chien blessé qui se promenait sur le trottoir. Il saignait de la patte. Et puis, comme je sais pas, je suis pas très bon au son de chien, mais il faisait ce son, il avait vraiment mal. Et c'est intéressant, il y a des gens qui se promenaient sur le trottoir. Alors tout le monde, quand tu vois un chien blessé avec une patte ensanglantée, c'est pas très rassurant. Donc tu vas assez vite et tu essaies de l'éviter. Alors c'est intéressant de voir ce chien suivait n'importe qui. Il était prêt à suivre n'importe qui pour voir s'il trouverait de la compassion de cette personne. Mais alors les personnes, bien sûr, avaient peur, donc ils partaient. Alors tac, il prenait une personne qui passait de l'autre sens, alors le chien tournait et suivait une autre personne pour essayer d'avoir de la compassion de cette personne. Ces personnes partaient, et ainsi de suite. Et on était au fond, on regardait ça. Et on regardait le chien, et plus on regardait, plus on se disait, mais c'est triste. C'est triste. Alors, mon premier sentiment, c'était que j'étais fâché contre le propriétaire. Je me suis dit, non, mais c'est quoi comme propriétaire, là? Son maître. Il est où? Il fait quoi? Alors là, dans un moment de spontanéité, c'est rare hein, qu'on s'arrête pour ce genre de choses, Meg et moi, on s'est dit, il faut qu'on aide ce chien. Il avait l'air tellement mignon, d'accord? Alors je me suis dit, mais c'est quand même incroyable qu'on est en train de faire ça. Alors on s'est arrêté, et on a appelé le chien. Alors bien sûr, il était tellement content de venir vers nous. Ah, il est venu, super sympa, il nous léchait et tout. Compassion, compassion, compassion. Alors Meg a dit, John, on le prend le pied au vétérinaire. Je dis, t'as voir, mais sang, voiture, on va le mettre où ce chien, comment on fait? Alors on avait une vieille couverture derrière dans le coffre. On a sorti la couverture, on l'a mise sur la banquette arrière de notre voiture. Et là, on fait monter ce chien qu'on ne connaît pas, patte ensanglantée, dans notre voiture. Je me suis dit, John, qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi? C'était vraiment un petit peu surréaliste, vous savez. Alors maintenant, le chien est dans l'autre voiture et on repart. Lui, il est tout content. Meg aussi. Moi, je me dis, ok, allez, on continue, d'accord? On continue. Et c'est intéressant, Meg, en voyant le chien, comment on appelle le son? C'est quoi ce son en français? Et ouais, le chien qui gémissait, ouais, le chien gémissait, Meg a commencé à pleurer. Elle a pleuré, mais pourquoi est-ce qu'elle a pleuré? Ben parce que elle a eu splagna pour ce chien. Et voilà, elle a eu compassion pour ce chien. Et alors on est allé à la clinique. Tout le monde était content, tout le monde était heureux à la fin. Et c'est intéressant qu'on a pensé à ce chien pendant toute la semaine. On se demandait comment il allait, mais on savait qu'il allait mieux. Et je me suis dit, mais c'est intéressant, John, tu as fait ça pour un chien. Est-ce que tu le ferais pour une personne? Ah, c'est une question difficile. Voilà ce que le Seigneur ici a fait. Il était avec les gens au point où ils pouvaient compatir avec leur misère. Et je pense que c'est un immense défi pour nous, mes amis. Nous n'avons pas un vétérinaire, nous avons Dieu incarné. Le pardon des péchés, la vie éternelle à offrir à un monde autour de nous languissant. Que le Seigneur nous aide. Avoir les yeux ouverts, les voir, avoir le cœur ouvert, à se mêler un peu dans leur vie pour qu'on puisse leur apporter au bon moment et de la bonne manière la parole de la vie. 3. Nous devons avoir non seulement les yeux ouverts, le cœur ouvert, mais troisièmement les oreilles ouvertes. Les oreilles ouvertes. Verset 37. Alors il dit à ses disciples. D'accord? Je rêve verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, maintenant il se tourne vers ses disciples, et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est intéressant, hein? Il s'adresse à qui? Aux disciples. Si tu es un chrétien, tu es disciple. Bien sûr, il parlait à ses disciples, mais nous sommes disciples. Donc il nous parle. Qu'est-ce qu'il nous dit? La moisson est grande, mais problème, il y a peu d'ouvriers. Alors la moisson, c'est quoi? Travail agricole qui consiste à récolter le céréal, surtout le blé, lorsqu'ils sont parvenus à maturité, petit Robert. D'accord? La moisson, ben c'est de récolter. C'est de récolter ce qui est prêt à être récolté. Et Jésus, maintenant, bien sûr, il ne parle pas du blé ici. D'accord? C'est une image. Il est en train de parler de ce qu'on vient de voir dans le verset 36 de la foule. Il regarde la foule, il la décrit comme étant languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Ensuite, il dit à ses disciples, mes amis, la moisson est grande. Cette foule, c'est la moisson. Elle est très grande. C'est le moment de moissonner. Alors, comment est-ce qu'on moissonne? Ben, Jésus l'a dit. Dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est de faire des disciples, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Dans Marc 16, et le verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Regardez ce qu'il dit. La moisson, elle est quoi? Grande. Alors ça, c'est un immense défi. Vous dites, mais John, à Genève aujourd'hui, est-ce que la moisson est vraiment grande? Oui. On est au moins 400 000 dans cette ville, non? 400 000, c'est à peu près juste. Vous ne croyez pas qu'il y a des gens dans cette ville qui attendent que quelqu'un leur parle de Jésus-Christ? Vous ne croyez pas qu'il y a des gens à Genève, riches ou pauvres, de quelque nationalité qu'ils soient? Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas des gens qui attendent que quelqu'un leur apporte la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui. Oui, je le sais, vous savez pourquoi? Parce que je regarde en arrière, ça fait 2 ans qu'on existe. On a eu quantité de personnes déjà dans notre église qui ont découvert Christ par le biais de un ou une de vous qui avait été leur parler, leur annoncer l'évangile. On a encore des baptêmes là en janvier. 5 baptêmes. Mais bien sûr, écoutez, la moisson est grande. Elle est grande. Mais il y a un problème. C'est pas la moisson le problème, c'est quoi le problème? Jésus le dit, il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Pourquoi s'il y a peu d'ouvriers? Mais c'est intéressant. Le mot ouvrier parle de quelqu'un qui travaille à épuisement. Qui travaille à épuisement. Beaucoup de gens se disent, ah, servir le Seigneur, c'est un loisir, c'est super, c'est génial, il n'y a que des bénéfices, c'est super génial. Ben oui et non, il y a beaucoup de bénéfices, le Seigneur est vraiment bon envers nous. Mais si vraiment on veut être sérieux, ça ne va pas être facile, et ça on le sait, parce que leur contexte, regardez simplement Matthieu chapitre 10, d'accord, juste quelques versets plus loin. Jésus déploie ses disciples, et regardez ce qu'il dit au verset 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans les synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. » Et le verset 22, il dit encore, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Il dit, « On va vous haïr. » Pourquoi? Parce que, vous savez ce qu'on est en fait? On est comme ce cercueil dans mon illustration. En fait, on est des porteurs de miroirs. Et on est en train de dire des gens, « Écoute, te voilà. Te voilà. Ta vie est une offense à un Dieu saint. Tu es pécheur et tu as besoin d'un sauveur Jésus-Christ. » Et le problème, c'est que lorsque l'on dit aux gens qu'ils sont pécheurs, tout d'un coup, ils ne nous aiment plus. Tout d'un coup, ils se disent, mais, tu te mêles de quoi? Par quel droit est-ce que tu as le droit d'émettre un jugement sur moi? Excuse-moi, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Oui, mais c'est toi le porteur du miroir. Et tout d'un coup, ils ne nous aiment plus. Et si tu n'aimes pas le message, ben, tu te débarrasses du messager ou de la méthode. C'est ce que Jésus dit. Alors vous voyez, d'être ouvrier, c'est pas facile. Ça prend du courage. Ça prend du courage. Est-ce que nous sommes prêts vraiment à payer le prix? Et c'est probablement pourquoi Jésus dit ici, il y a peu d'ouvriers. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Il en faudrait plus. C'est vrai qu'il y a une grande ville à Genève. Il faudrait qu'on soit plus. À se dire, écoute, Seigneur, équipe-moi, aide-moi, donne-moi du courage. Je ne suis pas très bon. Moi, je suis comme Moïse. Moi, je ne sais pas dire, je ne sais pas parler. Ce n'est pas grave. Seigneur, utilise-moi. Je veux bien être formé. Je veux bien travailler. Je ne sais pas. On va trouver quelque chose. Seigneur, aide-moi à être un tout petit peu plus courageux pour annoncer la bonne nouvelle autour de nous à Genève. Et ça mène au dernier point. Oui, il faut avoir les yeux ouverts, le cœur ouvert, les oreilles ouvertes, ouvertes à ce que le Seigneur nous dit, ici. Et finalement, la bouche ouverte. Regardez ce qu'il dit. Verset 38. C'est intéressant la solution. « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alors, c'est quoi la solution? C'est intéressant. Il parle à qui, ici? Ses disciples. Il leur dit, « Homme, voici la solution pour trouver des ouvriers. » Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi. « prier que Dieu suscite des ouvriers. Donc on devrait prier que Dieu suscite des ouvriers. Mais attention, il dit ça à qui ? Ses disciples. Donc ses disciples, maintenant, sous-entendu, vont commencer à prier. Ils vont dire, « Ah, Seigneur, il faut plus d'ouvriers. S'il te plaît, envoie des ouvriers. » Si tu fais ça, attention. Parce que c'est ce que les disciples ont fait. Le prochain verset. Puis, chapitre 10, verset 1. « Ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie, de toute infirmité. Il leur donne leur nom jusqu'au verset 4. » Et ensuite, verset 5, « Tels sont les 12 que Jésus, quoi ? Envoya. » Très intéressant. Il dit, la solution, c'est que vous priez qu'il y ait des ouvriers. Mais attention, si tu pries qu'il y ait des ouvriers, tu vas peut-être être la même réponse à ta prière. Si toi, tu pries pour les ouvriers, tu vas peut-être toi-même être appelé à être l'ouvrier pour lequel tu pries. Est-ce que tu es prêt ? Alors, prie. Si tu es prêt à te déployer. Si tu n'es pas prêt à te déployer, tu ferais mieux pas prier. Mais là, tu seras en désobéissance par rapport au verset. Donc, on est coincé. On est coincé. On doit prier le Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, envoie les ouvriers. Écoute, je me sens totalement pas qualifié, mais je me sens disponible. Seigneur, fais de moi ce que tu veux faire. Je m'offre. Comme outil. Génial, vous trouvez pas ? Génial. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous devons prier et nous devons aller. Et ça, mes amis, c'est le défi de ces versets. On termine une année, on démarre une nouvelle année. Moi, je prie vraiment, j'ai toujours prié que cette église soit une église qui se déploie. Et qu'on voit des hommes, des femmes, des enfants venir à Christ, découvrir le Sauveur. Amen. Seigneur, merci de tout cœur, vraiment de tout cœur, pour ces quelques versets, mais quel défi, quel appel. Seigneur, on est tous pareils, aucun de nous se sentons qualifiés, Seigneur, nous sommes sauvés par grâce, déployés par grâce. Notre message est un message de grâce, Seigneur. Et c'est vrai que c'est étrange parce que nous annonçons un message qui n'est même pas le mien et pourtant c'est nous qui sommes attaqués. Parfois, nous sommes haïs. Mais Seigneur, tu as été haï avant nous, tu as été attaqué avant nous, tu as été crucifié avant nous. Seigneur, tu es notre salut. Oh, je te prie. Déjà que si quelqu'un dans cette salle aujourd'hui ne connaît pas le Sauveur, Seigneur, qu'aujourd'hui tu ouvres leur cœur. Qu'ils puissent voir la splendeur de l'Évangile et qu'ils puissent reconnaître leurs propres péchés et qu'ils puissent capituler à ton amour, Seigneur, et qu'ils puissent dire oui à Christ. Et Seigneur, pour nous qui te connaissons déjà, Seigneur, je te demande de nous travailler et de nous montrer comment nous pouvons être plus efficaces et être comme Jésus. Seigneur, nous voulons de tout cœur, être comme toi, avoir les yeux ouverts, avoir les cœurs ouverts, avoir les oreilles ouvertes, avoir notre bouche ouverte dans cette ville. Et je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen.